Alors, 1, 10, 4,
1, 4, oui. Vous étiez pour l'histoire, hein, déjà, par plus de périodes. La guerre de 14-18 n'est pas loin. Moi, je suis né 7 ans après la guerre de 14-18, en 1925. Mon père a été mutilé à la guerre de 14-18, où il était au débarquement des Dardanelles. Le contexte d'après-guerre n'a pas droit jusqu'à la crise financière de 1929. Déjà, en Italie, Mussolini a pris le pouvoir. Cette crise va déstabiliser l'ensemble du monde européen. Et on va donc voir arriver Hitler au pouvoir en 1933. Franco en 1938. Autrement dit, dans le paysage européen, la France est entourée d'une part de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie. Sachant que l'Union soviétique est totalitaire. Alors, au milieu de pays qu'on appelle démocratique, l'Angleterre, Fallonie et la France. Royaume démocratique, c'est un mot intéressant, mais on était aussi des grandes puissances coloniales. Et la fierté de la France, une des fiertés, était l'étendue de ses colonies. On avait de gros motifs de fierté, on avait des grands hommes, des grands écrivains, des grands savants. On a aussi fait la révolution, oui, même le pays de la liberté des droits de l'homme. Alors, malgré tout, on se sentait un peu asséché, puisque à partir du moment où l'Allemagne réarme la République, la pression commençait à s'exercer. Les Jeux Olympiques en 1938 seraient arrangés. L'invasion de l'Autriche, l'Anschluss, non plus. Je passe à Serbie. Et on arrive en 39. En 39, après l'expiration de Munich, vous avez fait ça en histoire, on arrive en 39, où l'Allemagne et la Russie décident d'envahir la Pologne. L'envahissent rapidement, et c'est l'avantage. Cette invasion déclenche de la part de tous pays démocratiques. La guerre. On déclare la guerre en Allemagne. Et on reste l'arme au pied. C'est une période curieuse. On a l'impression que notre conscience était tranquille. Mais on ne sait rien. Alors on parle de la guerre. Il y a des affiches qui disent que va forger l'acier victorieux, etc. Autre remontade. Mais on se sentait quand même encore dans un pays libre, un peu assiégé. Et puis arrive la débâcle. Alors, je voudrais bien vous faire comprendre ce que signifie ce moment de rupture. On a l'impression d'être un pays libre, d'être des grands pays du monde. On en est un, c'est vrai. Et puis, tout d'un coup, on devient un pays asservi. Et à quel régime, mais asservi. C'est un effondrement. Moi, j'ai 15 ans. Je ressens ça très fort et tout le monde le sent. Alors, ça arrive en mai. Mais on part en vacances, si j'ose dire, puisque le lycée est fait. Et on rentre en octobre. Octobre triste. On se retrouve, on ne sait pas lui constituer. Des vacances, oui. Et on n'ose plus penser aux événements. Les décrets anti-juifs d'octobre, on les connaît à peine. La poignée de main de montoire entre Pétain et Hitler, là, ça marque. Là, ça marque. Peut-être Pétain pas fort, mais n'empêche, on a possible. C'est une humiliation. C'est un accord qui est un accord qui engage une servilité Alors, sur Pétain, un mot quand même. Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. C'est-à-dire qu'il a auprès d'un 50 ans, qui n'ont quand même qu'une quarantaine d'années. C'est une figure. Physiquement, il a bien un képi, le bonhomme un peu bon. 80 avec sa nuit, presque aussi vieux que moi. Et ça fait pas une très grosse impression sur nous. Mais quand il parle de révolution nationale, quand il nous dit que tout est pourri, qu'on a été rongé l'intérieur, on se dit qu'il y a peut-être une certaine révolution nationale, comme ils l'appellent, à mettre en route. Alors, je veux dire qu'on y croit, mais on n'a pas grand-chose pour se raccrocher. Arrive la rentrée, je vous l'ai dit, triste, et en novembre, moi j'ai donc un premier événement, c'est qu'un de mes amis très proche, il s'appelle Marcel Rosbert, fin novembre, me prend à part et il me montre une photo d'identité. Il me dit, voilà la photo du colonel de Gaulle. Il dit, il n'est plus colonel. Il est maintenant général. Mais il est allé en Angleterre. Il a lancé l'appel du 18 juin, dont la presse française avait d'ailleurs plus ou moins rendu compte, parce que les premiers temps, après l'armistice, la presse n'était pas totalement sous contrôle. Mais on a un peu l'attention, pas beaucoup. On a dit oui, il y a une des troupes françaises, une partie des troupes françaises, qui a continué à se battre. Mais Marcel, vous êtes me dit, attention, il représente la France. Ah, ça, ça fait un petit peu. Il y a avec lui des soldats. Et puis, il y a l'Empire colonial. Bon, autrement dit, ça paraissait un peu tenir debout, pas bien. Alors, je dois bien vous dire qu'en octobre-novembre, moi, je suis persuadé que les Allemands vont franchir la Manche. Dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Leur puissance a été telle que je me dis, c'est pas possible que l'Angleterre puisse résister à un pareil déferlement. Alors, c'est une goutte d'espoir qui reste comme ça dans le coin de moi. Quelques jours après, il m'apporte un petit texte qui essaie de raviver cet espoir. C'était les premiers documents clandestins. Alors évidemment, ces documents, on les montrait, mais on les gardait. On ne voulait pas qu'ils soient connus, c'était très dangereux. Alors, ces textes vont se faire un peu plus nombreux, 15 jours, 3 semaines, et vont se maintenir tout au long de ce printemps extrêmement triste. Puisque, à cette époque, l'Allemagne a envahi la totalité de l'Europe, et qu'on ne voit pas bien ce qui peut l'arrêter. On est en juin 1941, vous avez ça, Hitler décide d'attaquer l'URSS. Alors, double espoir pour nous. Premièrement, si Hitler attaque l'URSS, c'est que dans un premier temps, il ne va pas attaquer l'Angleterre. Il ne va donc pas franchir la Manche tout de suite. C'est important, très important. Et puis ensuite, Napoléon s'est cassé les dents. Pourquoi est-ce que Hitler n'userait pas les siens? Alors, oui, ça nous ranime. Les notes qui nous parviennent sont un peu plus fréquentes. Et on les montre dans un cercle un peu plus élargi. Alors, comprenez bien ce danger. Le danger, ça ne paraît rien. Une feuille de papier, vous montrez à quelqu'un, mais cette feuille de papier vous engage. Et on s'apprécera plus tard des conséquences. Alors, l'avance hitlérienne est extrêmement rapide, vous savez. puisque les hauteurs des genoux sont la tenaille sur celle autour de Moscou. Et effectivement, il y a une véritable tenaille autour de Moscou. Mais on est fin octobre, les troupes allemandes sont stoppées et ils prennent pas Moscou. Et l'hiver arrive. Donc, un peu plus d'espoir. Plus pour nous. L'année 42 se poursuit avec la diffusion de ces tracts qui ne sont encore que des tracts ou des feuilles simples. Elles deviendront des journaux à partir de fin 42 et début 43. Mais en 42, il se produit différents événements. L'un, c'est le débarquement des Américains en Afrique du Nord. Pardon, j'oublie une date essentielle, c'est Pearl Harbor. Pearl Harbor en décembre 41. Les Japonais attaquent Pearl Harbor et l'Allemagne déclare la guerre à l'Amérique. Ça aussi, évidemment, très important. Jusqu'ici, les États-Unis étaient l'oncle bienveillant. Là, ils rentrent dans la guerre. Donc, très important. Donc, 42. Les tracts circulent fin 42, débarquement des Américains au Maroc. De ce fait, les Allemands envahissent la zone sud. La flotte française, qui était hors condition d'un mystique, s'aborde pour ne pas tomber au maintien. Et on se trouve dans une situation différente, beaucoup plus dangereuse, puisqu'entre autres, la Gestapo sévit maintenant sur le territoire. Donc, fin 42, en 42, les Allemands ont repris leur ascendant offensif. Ils l'ont pris ce pas en direction du Caucase. Et le Caucase, ici, ont deux intérêts essentiels. D'abord, ils vont pouvoir récupérer des gisements de pétrole dans ce moment cruellement. Et ensuite, ils vont couper l'alimentation du matériel américain qui transite par le front en direction de l'URSS. Extrêmement important, d'où cette résistance désespérée à Saint-Denis. Désespérée, on s'en parle. Un million et demi de morts soviétiques. Bon. Stalingrad, les Russes s'en sortent avec l'attaque. À partir du Don, et comme vous le savez, l'armée de von Paulus capitule en février 43. Alors, Stalingrad, date extrêmement importante, elle marque l'arrêt de la progression. En 43, donc, nos journaux circulent cette fois, on ne fait pas que les montrer, ils commencent à circuler. Autrement dit, l'audiment s'éloigne doucement. Alors, malgré tout, quelques chiffres approximatifs. En 41, ceux qui approchaient la résistance étaient quelque chose comme quelques-uns pour 100 000. Vous voyez, une infime minorité. Ça va grossir doucement, pas très vite. À partir de 5 grades, un petit peu. Et à partir de là, les journaux. Mieux fait, plus documenté, on commence à circuler. Je vous rappelle que certains journaux importants, comme Irakem, Libération, étaient imprimés à Bourg. Alors, une chose que je voudrais dire aussi, c'est un nom qu'il ne faut pas oublier pour nous, c'est Pioda. Pioda était un officier d'armée qui avait une retraite, qui avait son premier activité, qui avait un magasin de projecteurs d'âge, bien qu'on aurait pu appeler Pioda, ça aurait été très bien. Et il a été le premier inspirateur de la résistance dans l'Ain, donc un orthodique. Vous le verrez si vous allez sur notre site internet, sa photo figure en pleine queue de notre page d'accueil. Alors, donc, 43. On commence à faire du maniement d'armes, c'est modeste, on va dans une ferme, disons, sur une bourg, et puis on a une mitraillette, hein, et on s'exerce à monter et démonter la mitraillette. On tire pas pour tirer. La surveillance est très forte. Alors, 43, ah, c'est aussi le début des arrestations. Au lycée, celui qui décide. Hein, pardon, j'aurais dû en mettre un autre, j'aurais dû parler de Parange. Parange était un surveillant général qui était un des principaux dirigeants du mouvement Fuge, Force Unifiée de la Jeunesse et des Partisans. Alors, Parange a pu insuffler quand même l'idée de se constituer en réseau et il a pris en partie le contact. Hein, avec Morin, hein, étonnant. Et les, enfin, ce qui existait auparavant va donc venir se fondre dans ces nouveaux réseaux. Ces réseaux finiront un an après par représenter de trentaines, c'est-à-dire de fois trente. Constitué, chaque antenne est constituée, évidemment, de 5, 6 ans. J'étais en chef. En 43, donc, février, mars 43, je ne vois plus, Marcel Tenon est arrêté. Un mois après, je crois que c'est en mai, Paul Morin est arrêté à son tour. Trois jours après, c'est notre pote de gym, Marcel Cochet, qui est également arrêté. Bon, ils vont suivre un périple à la fois classique. Ils vont passer par Fremont-Luc, ils vont passer par différents internements. Et ils vont se retrouver en camp de concentration tous les trois. Bon, c'est dire que faire circuler des journaux et décider de constituer des réseaux, un tout début. C'est extrêmement dangereux, même si ça peut avoir un caractère apparemment anodin. Le système, malgré tout, perdure après l'arrestation de Paul Morin et de Marcel Tenon. Et l'organisation se fait de plus en plus précise. C'est à ce moment-là qu'on arrive en 1944 avec deux trentaines. On est au 5 juin 44. À cette époque-là, il se passe en deux parties. On passe un bac à la fin de la première et un bac à la fin de la terminale. Celui de la première, le premier bac, se passe fin mai et le deuxième se passe début juin. Moi, je suis donc en terminale S et notre examen commence le 3 juin. Il est interrompu par une alerte, bref. Le 5 juin, nous sommes en planche en filo, et on entend des tirs de mitraillette. Les miliciens étaient dans la ville, ils patrouillaient dans la ville depuis quelque temps, ils avaient l'habitude de tirer un petit peu pour se faire, pour impressionner les gens. Bon, mais là, il s'agit d'un tir nourri, un échange de tir. Bon, il est 11h du matin, on se pose quelques questions, mais on est vraiment en planche. À midi, on va manger. L'après-midi, on a l'épreuve de maths. Pour nous, évidemment, très important. À 1h30, autour de 1h30, un élève de première, qui a donc passé son bac 8 jours avant, vient me trouver dans la cour de première. Et il me dit, ce matin, un de nos groupes a voulu faire une opération à la Trésorerie Générale. Ils ont été dénoncés et ils ont été reçus par la milice. Il y a eu un combat et l'un de nous a été blessé et fait prisonnier. Tel qu'on connaît la milice, il est vraisemblable qu'il parle à plus ou moins rapidement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, moi je réunis, moi si c'est nous citons, et puis dans la cour on discute, est-ce qu'on part tout de suite ou est-ce qu'on va encore suivre des programmes? On se parle, hein, puis on décide de rester, et de partir tout de suite après. Mais à 4h, on entend des tirs de mitraillette de nouveau, cette fois ils sont tout près. À 4h, le lycée est envahi. À 4h15, un milicien fait irruption dans notre salle. Et nous fait brutalement. Dans la cour, il y a le général D'Agostini avec quelques-uns de ses officiers, des miliciens qui parlent pas trop bien, et puis à droite et à gauche, les professeurs et élèves groupés dans la cour de l'honneur. Moi, on m'appelle, je suis reçu par le général D'Agostini en personne, à coup de poing, coup de pied, bref, je me retrouve devant le mur qui est face à l'entrée dans la cour de l'honneur. Nous sommes 10 avec un fusil mitrailleur dans deux. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un choc quand la France a succombé à l'armée allemande. Mais il nous dit tout dire. Le choc, quand ça arrive, vous êtes libre et d'un seul coup, vous n'êtes plus libre. Bon, on va passer, il faut réfléchir. Pendant les séances de remaniement d'armes, on m'avait confié une notice de maniement et démontage du fusil mitrailleur. Le fusil mitrailleur, vous savez un peu, c'est une arme de guérilla extrêmement redoutable et efficace. C'est transportable, ça porte très loin et ça tire de rafale. Cette note était dans une poche de mon pantalon qui était au dortoir et mon pantalon était comme ça sur le dossier. Les miliciens, bien sûr, foutent nos affaires et commencent par le dortoir. Moi, mon lit était le premier à l'entrée. Et je ne vous cache pas que j'avais le cœur qui battait un peu. Le milicien arrive un peu comme une harpe, persuadé de faire des quoi de truc, et il fait comme ça, bon. Mais la notice est sur un papier fin, huilé, bien plié. Il s'en rit. Bon, alors, il ne se décroche pas, il défait le lit, persuadé qu'il a trouvé des armes, il arrive. Bon, un peu déconvenu, et il passe au-dessus, bon, et moi, je respire. Bon, on fout des affaires, bref, quelques coups, etc. On nous emmène au quartier général de la milice qui est à Saint-Amour. Et là-bas, on a subi notre premier interrogatoire. Alors, interrogatoire, je vous en parle tout à l'heure. Interrogatoire, c'est. Oui, je vous en parle. Je vais passer un peu vite. C'est une épreuve. J'en subirai deux autres. Alors, après l'interrogatoire, on nous ramène à Bourg-Cou, on s'est introduit dans les caves d'un hôtel, et où on se retrouve avec un certain nombre d'autres personnes suspectes et arrêtées également. On nous a promis d'accord martial, et on va nous retirer à Lyon, dans un délai assez bref. Heureusement, le maquis a attaqué entre-temps, les voies sont provisoirement coupées, donc on reste. Alors, ça, c'est une période nouvelle, bien sûr. Ce que je peux vous sentir, si une chose importante, la cellule voisine de la nôtre, il y a un jeune type qui a été arrêté par la ministre récemment, en combat, qui s'appelle Venet. Et Venet, à la voix forte, il a des arguments qu'il porte, et à travers les barreaux, il invective les miliciens qui passent. Mais avec des arguments qu'il porte, il sait avoir les mots qui réveillent. Ça réveille tellement que les miliciens prennent le tabac une fois, deux fois, trois fois, ça ne calme pas, ils continuent. J'avoue que moi, vraiment, je me dis, peut-être qu'il ferait mieux de se taire au nom. Il se dépare, les miliciens prennent la main devant la porte et lui disent, on en fera le mitrailleur dans le dos. Il fait le tir, bon, c'est à partir de là que je commence à voir la mort près de moi. Les miliciens ont fait leur coup de force. bien sûr, les personnalités de la ville réagissent un petit peu, parce que le général D'Agostini est à la force armée. Mais malgré tout, on lui dit, écoutez, tous ces lycéens, vous leur reprochez d'autres trucs, mais apparemment, ils n'ont tué personne, ou du moins, on n'en a aucune preuve. Alors, est-ce que vraiment, c'est la peine de les faire passer pour le provincial? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution, un moyen terme? Alors, on décide de nous envoyer en Allemagne. Alors, on sait pas où. Bref, on nous envoie. On part en Allemagne. Mais, avant de partir, pendant qu'on assiste dans les cas, je vous raconte un autre personnel. Je vous ai dit que il y avait une notice dans une poêle de. Mais, comme l'aumônier du lycée prenait soin de nous, il avait peur qu'on ait froid, il m'a fait partir. Il nous a fait partir des vêtements. Et parmi eux, un blouson. Et dans ce blouson, il se trouve qu'il y avait un document qui est un devoir d'anglais. Je ne sais pas trop mon anglais, mais ce devoir d'anglais était intitulé Débarquement anglais sur les côtes de France. Or, on a été arrêté le 5 juin. Le débarquement a eu lieu le 6 juin. Et le capitaine de ville qui m'interrogeait, triomphant, était persuadé que c'était un langage crypté. Et il voulait me le faire décrypter. Moi, j'étais bien capable de le faire, parce que c'est pas du tout un langage crypté. C'était un devoir pour le prof d'anglais, qui n'était pas résistant, mais qui, bon, qui était pas pour allemand, nous avait fait traduire. Bon, bref, ça m'a valu un double interrogatoire. Alors, mais une inquiétude mortelle. Parce que, à partir du moment où on nous avait fait partir une fois des vêtements, on était susceptibles de nous en faire partir d'autres, en particulier au moment de notre départ. Et c'est ce qui s'est passé. On nous a envoyé des vêtements. Et pendant tout ce temps, moi je me suis dit, si on m'offre mon pantalon sans le fouiller, cette fois je ne partirai pas maintenant, ce sera pire. Et je ne vous cache pas, c'était, oui, je ne sais pas ce qu'on appelle l'angoisse, mais c'était ça. Très fort. À tel point que quand le train a démarré de Bourg, eh bien, dès qu'on a eu franchi le pont, j'ai poussé un soupir de soulagement énorme, et que, alors que j'avais là la possibilité de m'évader, je l'ai pas saisi. Donc, on part, et on se retrouve en Pologne, ici, bon. Alors, on est dans un camp qui est un camp de représailles. Pour quelle raison est-ce qu'on est envoyé dans le camp de représailles ou dans le camp de concentration? Je ne sais pas précisément, mais il est certain que la différence est considérable, parce que nous n'avons pas subi les brimades permanentes des SS. Le travail est très dur, on travaille. Moi, je travaille de nuit, je pars à 5 heures. Je travaille de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Une heure pour rentrer. Et ceci au début, 7 jours sur 7. À peu près 6 jours sur 7 seulement. Ça reste très dur. D'autant plus le travail, parfois même très bien. Bon, on perd 10 kilos, 15 kilos, et puis on s'y fait. On se fait ça. Et quand je commence à m'y faire un peu, c'est-à-dire au bout de 2-3 mois, je me dis, il faut que je me sente là. Il faut que je fasse quelque chose, je crois, pour pas ça. Bon. Alors, donc, on est ici. Je me dis, je vais m'évader, mais pour m'évader, il faut que je travaille, traverse la Slovaquie, que je passe l'Autriche, j'aille ou en Italie ou en Suisse, où il y a un peu le périple. Bon. J'ai à ce moment-là une excellente résistance physique, sûr, j'ai l'habitude de je me dis, franchir les montagnes, des Alpes, ça ne posera pas de problème. Non, on est toujours prétentieux. Bon. Ceci dit, je me dis aussi que si j'avais des papiers, ce serait encore mieux. Et je trouve une filière où on me dit, on va te procurer des faux papiers. Des faux papiers, n'arrive pas tout de suite. Le résultat en est que, je crois que c'est le 27 novembre 44, je décide de ne plus aller travailler. C'est-à-dire que je viens clandestin dans le camp. Je vous dis tout de suite... que c'est pour moi aujourd'hui d'une certaine façon une fierté, je sais pas pourquoi, c'est une énorme connerie. Parce que faire ça, je veux ce qu'est ma fille à chaque instant. Il faut être arrêté à chaque instant. Et là, ça m'aurait coûté extrêmement cher. Le minimum, ça m'a coûté, c'est un séjour dans un camp qui était un camp dépendant d'Auschwitz, qui était tout près, qui s'appelait Belgrano, où quelques semaines mes camarades ont fait des séjours, dont ils sont rentrés réellement, cette fois, squelettique. Bref, je fais ça. Je passe les fêtes de Noël en me disant que oui, effectivement, j'ai fait une connerie, mais il n'était plus capable. Et puis, début janvier, on entend le canon russe qui est à une centaine de kilomètres. Hop, là, je me dis, mais après tout, stupide, hein, au lieu de partir par ici, je vais partir par là. Alors, le temps de récupérer quelques points, j'en trouve parmi une bande de truands parisiens qui avaient tout arrêté dans une collection un peu différente des nôtres, parce qu'ils n'étaient pas résistants, seulement parce que. Ils sont du marché nord, je ne sais pas quoi, ah, bref. Des gens qu'on qualifie en général de pas très recommandables. C'est des vrais truands. Et il y en avait un qui était mon copain. Un copain très proche, vraiment bon copain. Il avait lui-même un ami. Et je vais vous raconter une anecdote, je ne peux pas me permettre de vous dire. Tous les deux ont été arrêtés pour, je pense, par nous, au camp, et envoyés dans ce camp de Béham. Alors, le copain, mon copain, était un gars pas très grand, une grosse tête, des cheveux rares, vraiment, on a l'impression qu'il n'est pas de couche. Je ne sais pas comment il avait pu se coucher maintenant, et il avait entretenu le couloir. Mais, un jour où il faisait la queue pour prendre, récupérer son ravitaillement, le ravitaillement, c'était par jour une gamelle de soupe avec un de pain. Un cangaillard qui, à côté de lui, l'a fauché de son pain. Or, le pain, c'est la nourriture essentielle. Se passer de pain pendant une journée, c'était peut-être pas tout à fait le moment de dire pain, mais presque. Or, mon copain, donc, qui est très bien de lui, qui savait se battre, qui savait que c'était le combat de rue, là, s'est retourné et en un éclair a mis l'autre KO. Il est tombé. Aussitôt, les capots sont précipités et on leur a dit qu'il avait glissé, etc. Mon copain avait risqué sa vie, pour sauver son copain. Il faut saluer des choses comme ça. Et c'est celui qui en était bénéficiaire qui me racontait. Et c'était pas un gars qui racontait des histoires, tout ça, farfelu. Non, il était positif. Je le dis bien, j'insiste là-dessus. Alors bon, je me suis évadé avec eux. C'est bien, c'est des gens sur qui je pourrais absolument compter. Alors, à commencer, bon, il a fallu d'abord s'évader du camp. Bon, le camp s'est trouvé, est évacué dans les jours qui ont suivi, russe cache. Bon, bref, on a réussi à échapper. On est parti d'abord à travers bois. Il y avait 30-40 cm de neige. À travers bois, on risquait de se tordre un pied, de se faire mal. On a dit, sinon, quand on rencontrera les Russes, ça va aussi bien qu'on soit sur la route que travers bois. On a donc pris la route qui allait à travers l'Est. Alors, oui, je ne peux pas vous raconter ça. On marchait sur une route toute droite. Il y avait 3-4 km. Tout droit au milieu d'une forêt de hêtres, forêt enneigée. La route, il y avait 2 mètres de large et puis 2 grands pour la neige de partie de l'autre. Et on marchait tout seul et le canon tenait de tous les côtés. On commençait à être entre lignes parce que les lignes de front, pas du tout comme en 14-18, tous les tranchée est à 50 mètres, ils ne font des choses très discontinues, il y avait une attaque, il y avait un repli, etc. Et on va subir ça pendant 5 jours. Bon, je ne veux pas vous raconter d'autres épisodes pour l'instant. On a notre vie a été tenue à parfois infime des secondes. Enfin bon, on a côtoyé la mort. On a vu des cadavres partout, on en a vu empilés, comme des bûches de bois. Je vous rappelle qu'il y avait moins 15 mois, donc c'est pas de problème d'épidémie. On a été arrêté par les Russes à plusieurs reprises. On a circulé entre lignes pendant à peu près 5 jours. Et puis on a émergé aux environs du bassin de Katowice, en Pologne. Je cite ce bassin ouvrier parce que là on avait franchi les lignes. Alors ensuite on était dans une zone bien sûr occupée par les Russes, qui étaient attentifs quand même à ce qui se passait dans leur zone. On a d'ailleurs été arrêté plus tard à Cracovie, puisqu'on est parti à Cracovie à trois reprises, c'est sûr. On est ensuite parti en direction de. Alors donc, on est parti d'ici, là, sur l'Oder. On est parti vers Cracovie, on a franchi la Vistule sur la glace qui commence à fondre. Donc, par moments, si bien qu'il est passé de bloc de glace en bloc de glace. C'est une expérience. Bon, et on est arrivé jusque à quelques kilomètres de Lvov, qui se trouve à l'heure actuelle en Ukraine, qui était donc à l'époque en URSS. Là, on a pris le train, tout simplement, et on est remonté jusqu'à Lublin, qui se trouve propre. À Lublin, on avait envisagé, parce que près de Lvov, on était dans les Carpates, on avait envisagé de franchir les Carpates pour la Roumanie, en disant la Roumanie, bon, ça, un air un peu moins slave, peut-être un peu plus latin, bon, bref, le rêve. Et heureusement, on n'est pas ça. Alors, on est donc remonté là, on pas du là, on a accepté d'être enfermé dans des camps dont on sortait quand même tous les jours. Il faut dire que les Russes ont une conception assez curieuse. Ils gardaient la porte du camp de façon très stricte. Mais, à la limite, ils pouvaient nous indiquer qu'il y avait une brèche là-bas un peu plus loin et que ce n'était pas de leur ressort. Donc, on est sorti tous les jours. Très important pour moi, ça nous a permis, pendant le contact étroit avec la population polonaise, et d'apprendre des quantités de choses, puisqu'ils étaient, depuis 1939, sous domination soviétique, des quantités de choses sur la régime soviétique. Alors ensuite, à Lublin, on nous a habillés en uniforme d'armée rouge, sur un train en France en uniforme d'armée rouge. On est parti en direction de Kiev, oui. Jusqu'à Rovno, en Roumanie. Là, on est resté 2 mois de nouveau. C'est là qu'on a appris l'armistice, le 8 mai. Je vais en parler tout à l'heure si vous voulez. Et on a repris le train. Alors, là, inquiétude, après ce qu'on nous avait dit les Polonais. On connaissait très bien l'extension du Gulag et des divers inconvénients du régime stalinien. Et on savait que si le train nous emmenait vers Kiev, c'était une très mauvaise direction. Donc il était impératif de sauter du train. Alors on s'est surveillé. Et puis à l'embranchement, on est descendu et on est arrivé à Odessa. Alors Odessa, on a resté quelques semaines et puis on a embarqué sur un cargo australien, la Scanius, et on a fait. Là, les 15 jours les plus extraordinaires de ma vie. Absolument extraordinaires. Je ne vais pas m'empêcher de vous raconter. Moi, j'étais libre de l'Israël. J'étais à peu près tapé. J'étais en excellente condition physique. Je dormais 2-3 heures par nuit. Je pouvais dormir sur un banc comme ça. Je même pas déplié mon hamac. Et je passais mes jours à minuit sur le pont à regarder. Je regardais, moi qui étais jamais allé depuis mon pays, Arban. J'étais allé jusqu'à Bourg, dans ma ville. Eh bien, la première mer que j'ai vue, c'est la mer noire. On a passé le Bosphore, on a fait escale à Istanbul. Je peux m'empêcher de raconter ça. On est passé le Dardanelle, où mon père avait été blessé 30 ans avant. On a traversé la mer Égypte en temps splendide. On a fait escale à Porcelide, donc j'ai aperçu l'Afrique après la Cine. On a traversé la Méditerranée, on est passé le droit de Messine, on a fait escale à Naples, j'ai vu le Vésuve et Capri, le détroit de Bonifacio et Marseille. Et on est arrivé à Marseille le 10 juin. Le 10 juin, autrement dit, vous voyez, un an et 5 jours. Voilà, on m'a demandé de vous parler aussi du après, mais je me réserve de le dire peut-être avec les questions. Bon, voilà, je vous résume. Mais assez rapide. Hein, le périple. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. François Villain, lui a réagi très vite. Mais il y a eu, malheureusement, dès le début, des réactions antisémites au lycée. Dès le début. Alors que, jusque-là, moi, j'avais des camarades, j'ai appris que c'était juif, mais je ne savais pas. Il n'y avait vraiment ici aucune différence entre nos origines différentes. Je l'ai appris, bon, j'avais 15 ans, hein, mais je n'ai appris que plus tard hein, des décrets anti-juifs. C'est votre question. Oui. Non, si je vais vous le dire quand même. On a une habitude, vous savez, il y a des habitudes dans le lycée, surtout chez les internes. Quand quelqu'un laissait tomber une pièce de monnaie, eh bien, on disait « juif », comme ça, « juif », « juif », bon. Mais personne ne faisait le rapport avec le fait qu'il y avait parmi nous des juifs. C'est justement, je vous le dis, parce que, oui, c'était totalement innocent. C'est dommage, parce que je comprends que les juifs aient pu se sentir. Non, je crois que le sentir. Non, je veux dire, les juifs.
Ça a été quoi, vous, votre action dans la résistance?
Pardon?
Ça a été quoi, votre action, vous, dans la résistance?
Ah, mon action. Mon action, ça a été. Ça a été bon, la diffusion des journaux. Moi j'ai eu deux périodes intenses à la résistance. C'est mes interrogatoires hein, et c'est mon évasion et ma clandestinité. Ça, c'était mes deux points de résistance. Ça vous paraît curieux, vous pensez peut-être que j'étais parti avec un fusil, que j'avais. Non, j'avais fait une main d'armes, j'avais ma notice de maniement du film, d'ailleurs. Mais je m'en souviens de ça. Je suis un résistant qui n'a tué aucun enfant. C'est peut-être une chose avec laquelle il faut insister. Je ne veux pas me dédouaner, mais il n'y a pas beaucoup de résistants qui ont tué tout le monde. Oui, on peut avoir fait. Les gens qui ont fait la guerre de 14, il y en a beaucoup qui ont fait la guerre de 14, qui n'ont tué personne. Hein, ils ont tiré, peut-être, du personne. La guerre, c'est un danger, surtout. Le danger était permanent, c'est sûr. La preuve l'a été. On a des amis qui ont été arrêtés. On a, moi, dans ma propre classe, parmi mes camarades immédiats, Ben Soussan était tué en combat, Jean Raberin était tué en combat, bref, a été arrêté horriblement, torturé. Et puis les autres arrêtés, bien sûr. Il y en a d'autres qui ont été arrêtés, mais qui sont revenus. Je parle de ceux qui sont revenus. Au lycée, les classes de seconde, en première et terminale, représentait à peu près 150 élèves. Alors, si vous tenez compte de ce qu'il y a eu trois classes, hein, 41, 42, 43, ça représente en gros 300 personnes. Et sur 300 personnes, il y a eu 37. Voilà ce que je peux vous résumer. Comment je peux vous résumer ce qu'a été le bilan, si j'ose dire, de la résistance des lycéens résistants. Si Serge Touratin, qui a été fusillé, ce qu'on parlait de nous, c'était évidemment des dénonciations. Alors, on nous. Vous êtes en résistant, bon, non. Alors, j'avais eu le temps, ayant été informé, j'avais eu le temps de dire à mes camarades, donc pas par une ligne de défense, donc une défense de celle-ci, notre camarade Jean-Marie a été identifié, et nous, Jean-Marie Ney était pour nous un de nos amis, et on diffusait des journaux parce qu'il nous demandait de diffuser des journaux. Bon, on ne pouvait pas cacher quand on distribuait des journaux. Voilà la ligne de défense qu'on a essayé de tenir tout au long. Alors, un interrogatoire, ça se déroule, ça dépend, c'est différent. Moi, j'avais deux gars qui me tenaient, qui m'avaient retourné dans le dos, et puis deux types qui me frappaient à coups de pied. Bon. D'autres fois, à coups de matraque. Alors, le premier interrogatoire, donc, d'accord, s'il pose la question, tu as été résistant, tu vas nous dire quels sont tes complices. Bon, ben, j'ai pas de complices, moi, j'étais pas résistant, je distribuais effectivement des journaux, c'est vrai. Alors, on vous pose des questions, vous répondez pas, vous répondez mal, bon, on vous frappe. Mais il y a un moment où ils se rendent compte que, bon, que vous ne répondrez pas, non, et ils pensent que peut-être vous n'avez pas motif à répondre. Alors, moi, pour moi, c'est déroulé de façon un peu différente. Parce que les miliciens tombent, sur la gauche, il y a un rideau, et au moment, on a écarté le rideau. Et derrière le rideau, il y avait une civière. Et sur la rivière, il y avait notre camarade, Rocher, qui est celui qui avait été blessé et arrêté le matin même. Bon, Rocher Guettet avait un large une balle dans l'épaule. Et Agostini lui dit, est-ce qu'il faisait partie de la résistance? Et Guettet dit, oui. Alors, je précise ce sujet. Moi, j'ai eu conscience dès ce moment-là que Guettet pour pas frottement. Il est encore vivant. On savait que lui appartenait à la résistance puisqu'il avait été arrêté les armes. Alors, il y a une question qui s'est posée. Qui nous a dénoncé? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Moi, je dis clairement mon avis. Je pense que c'est lui. Mais j'ai pas de rancune dans son avis. Je pense que n'importe qui en fait pareil. Alors, une partie de mes camarades veulent soutenir que ce n'est pas lui. Non. Moi, d'ailleurs, quand je suis rentré, je cherchais à le rencontrer. Lui, il n'a pas beaucoup voulu. Je l'ai finalement rencontré que 3 semaines avant sa mort. Je le regrette. J'aurais tenu à lui dire, j'ai une circonstance, c'est dramatique, on va inutile de vous dire. C'est un moment intense. Mais, non, je n'avais pas de rancune à ce moment-là. Alors, à la suite de ça, vous avez un interrogatoire. Quelle que soit la disproportion entre les forces en présence, ça reste un dialogue. Et il est certain, comme je disais tout à l'heure, qu'un des moments les plus intenses que j'ai connu, c'est celui-ci. Parce qu'effectivement, on vous frappe, ça fait mal. Bon, on peut crier sous les coups, moi, c'est pas bien mon genre, mais bon. Mais, on vous pose des questions. bon, on fera pour vous répondre à des questions. Alors, vous pourrez répondre par oui ou par non, mais en général, ils feront des objets de nuances. Alors, un moment, Dagosny, mais pourquoi tu es rentré dans la résistance? Et je lui ai répondu quelque chose comme je supporte mal que mon pays soit occupé par des étrangers. Alors, quand vous êtes dans cette situation-là, vous savez, tous vos sens sont alertes, vous savez, toute votre lucidité. Et moi, j'ai senti que le climat devenait moins lourd. Les ministres prétendaient qu'ils n'étaient pas pro-allemands, ils prétendaient qu'ils étaient avant tout français au sort du marché européen. À partir du moment où, moi, je dis, on n'est pas des terroristes, non, au Walter français, mais à nos ennemis communs, l'Allemagne, ben oui, ça a compté. Alors voilà, je tenais à vous dire, interrogatoire, c'est aussi ça. C'est les réponses qu'on arrivera à formuler. Et oui, ça fait partie des grands moments de ma résistance.
Comment se passait l'occupation de la ville?
Pardon, l'occupation de la ville?
Oui.
J'avoue, je sais pas trop, j'étais interne. Non, je m'en rappelle, interne, c'était un peu poussé. Je crois que, bon, quand la ministre était là, la ministre n'a pas trop pris en ville, les Allemands là. Auparavant, les Allemands, ils défilaient parfois, puisque un jour, on leur lançait des cailloux. Il a failli y avoir un grave problème. Mais il n'était pas trop agressif. Directement, il l'est indirectement, en informant la population, etc. C'est un asservissement généralisé. Mais leur brutalité ne se manifestait que dans le cas des arrestations. Mais la ville, je n'avais pas l'impression qu'elle était. Il y a le couvre-feu, je fais non plus. Hein. Il y avait le couvre-feu. Ceux qui, les externes, qui sortaient parfois pour aller barbouiller les murs hein, ou faire exploser les vitrines des commerçants, collaborateurs, hein, s'exposent évidemment à faire des rencontres. Hein. Mais dans la journée, à ma connaissance, pas des choses extraordinaires. Pas tous. On savait que Barange l'était, c'est d'ailleurs très imprudent. On savait que son général bourgeois, enfin, moi je ne savais pas, mon brûlé, c'est vrai, était résistant. Il était d'ailleurs arrêté en même temps que nous, mais lui il était arrêté parce qu'on a découvert qu'il ne s'appelait pas bourgeois, mais qu'il s'appelait Schmitt. Alors on a dit, les missions ont dit, une fausse identité, c'est suspect. Oui, ça rejoint, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand ils ont su que Schmitt était alsacien et qu'il avait opté pour la France, les miliciens, après l'avoir spécialement intéressé, les miliciens l'ont lâché. C'est-à-dire, ils montraient par là qu'on pouvait être entièrement, mais pas se battre. Donc ils l'ont lâché. Le pauvre s'est fait tuer en combat. Deux mois après. Alors, à part ça, le résistant, oui, on se doutait que certains l'étaient. À part Barange, pour moi, c'est une certitude, il s'est avéré, je suis plus tard, que notre prof de maths était également résistant. Un homme que j'aime beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de résistants parmi les profs, il y en avait. Mais il restait discret, ce qui est tout à fait normal. Le risque était trop grand. Ma famille, oui, ça c'est un gros problème. Ma famille est au courant, oui, mes parents étaient au courant, Et bon, il m'a regretté, il l'a prouvé, au plan du principe, hein. Mais ils auraient souhaité que je ménage ma vie. Hein. Et moi, j'étais ennuyé de penser qu'en cas de problème, ça risquait de leur tomber dessus. Il y a eu des choses très graves. Moi, j'ai un de mes camarades, je vais parler rapidement, qui a été arrêté du fait de ce que son frère était parti au maquis. Les Allemands ont appris que le frère était parti au maquis, ils l'ont arrêté. Ils l'ont esquinté. Arraché les yeux. Oui, ces problèmes familiaux étaient très, très prégnants. Et vous savez, moi j'ai été hanté pendant toutes les fois que j'ai senti la mort de près, c'est parce que j'ai eu plusieurs reprises. J'étais hanté par une image qui est celle de mes parents qui s'écartent. C'est insupportable, moi. Pour laisser entrer mon cercueil. C'est une image supportable. Et cette image, oui, elle m'a habité. Mais... Oui, il est certain qu'en s'engageant, on engageait, et parfois de façon importante, nos proches. Certains d'entre nous étaient en contact direct avec les maquis. Moi, personnellement, je n'étais pas directement, encore que j'ai eu même un contact personnel avec le capitaine Roman. Mais bon, c'était. Il pensait que j'étais capable de faire. De l'aider à monter un camp, et je n'en avais pas la possibilité. Oui, on savait qu'il existait des camps, enfin, on savait. Vous savez, les camps, les maquis, je veux dire, ne pensez pas qu'un maquis, c'est composé de 20 personnes hein, armées jusqu'aux dents et qui sont décidées à se battre. Hein. Les maquis, ça a été au départ des refuges, hein, surtout à la suite du STO, vous avez appris ce qu'était le service de travail obligatoire. Alors ceux qui ont voulu échapper au STO ont dû prendre le maquis, donc, et ils se réfugiaient dans des endroits un peu reculés, où ils vivaient de façon assez sommaire, mais sans armes. Et puis petit à petit, ces maquis ont été contactés par des résistants authentiques, hein, qui les sont armés, finalement, ils ont constitué des groupes de. Il y a des maquis qui sont situés directement avec des résistants, c'est qui est aussi. Mais c'était compliqué un maquis, c'est compliqué d'ailleurs, ou si vous avez l'exemple hein, du Vercors et des Glières. Trois exemples, le Vercors, les Glières, et ce qu'a fait Roman dans le département de l'Ain, un Jura. Vous avez trois exemples très importants. Le maquis du Vercors était persuadé qu'il avait la capacité militaire de résister avec l'aide des alliés, aériennes des alliés. Bon, complètement bizarre, puisque après, au lieu de que ce soit les alliés qui débarquent, c'est les parachutistes allemands qui sont arrivés. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions contre la force allemande. Aucun maquis n'est en mesure de résister. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien compris Roman, qui lui a organisé des groupes, mais élastiques, de façon à ne jamais se trouver en position d'être assiégé. C'était remarquable comme tactique. Alors, il y a d'ailleurs d'autres groupes en France qui ont réussi à faire ça, hein, de ce que Guingamp a pris son point. Alors, je précise que malgré tout, que les Yougoslaves et Tito ont réussi, eux, dans un contexte différent, avec un terrain différent, mais à résister à l'attaque d'armées allemandes entières. Hein. Il faut leur rendre cette justice aussi. Mais ceci ne dit pas le mérite de ceux qui étaient en France différents.
Quelle était votre vie quand vous êtes rentré en France en 45?
Pardon, le...
Votre vie quand vous êtes rentré en France en 45?
Oh là, alors ça c'est un... Oui, effectivement, il faut que je porte ça. quand je suis rentré en 45, après cette extraordinaire croisière, je me sentais porteur de deux vérités. L'une, c'était que je connaissais l'existence d'Auschwitz et d'à peu près le nombre de morts qu'il y avait fait, et que je connaissais un peu les rouages du système stalinien. Alors, quand j'ai annoncé autour de moi, annoncé, je ne sais pas, un appel, mais quand j'ai dit autour de moi que les Allemands ont été rendus coupables, en particulier à Auschwitz, de massacres épouvantables, on n'a pas cru. On a pensé que je délirais. On a dit oui, il y a d'autres résistants, mais personne n'a parlé de ça. Bon, c'est très pénible, vous savez, d'être porteur des choses dont vous êtes certain. Moi, je suis certain pour deux raisons. J'avais côtoyé, non pas Auschwitz, mais des évadés d'Auschwitz, il y en a eu quelques-uns quand même, que j'avais côtoyé, des conditions épouvantables. Ils nous avaient raconté par le menu ce qu'ils avaient fait. Et puis j'avais une preuve. En étant à Lublin, donc un peu au nord d'Auschwitz, j'étais proche d'un camp qui est le deuxième camp d'extermination, il s'appelait Majdanek. Et je suis allé, moi, à pied à Majdanek. Et à Majdanek, j'ai vu quelque chose qui symbolise tout. Il y avait une espèce de cabane. Sur la cabane, il y avait un tas, haut comme ça, à peu près 5 mètres de large. Des chaussures d'enfants. Chaussures d'enfants, des petits. J'ai plusieurs choses à vous dire sur. D'abord, c'est la preuve absolue que, bon, qu'on avait là gazé et brûlé des enfants. Donc la preuve que le système d'extermination allemand existait. Un mot quand même sur les chaussures d'enfants, puisqu'on va parler de notre choix. Moi, dans les chaussures d'enfants, j'ai été. Bon, mais vous savez, quand on a, je répète, oui, côtoyé la mort pendant des jours et des jours, on est devenu froid, un peu glacé. Et je me rappelle que j'ai pris une chaussure d'enfant, une petite chaussure avec une boucle, et que je me disais que c'était. Que j'arrivais pas à éprouver de l'émotion, je savais ce que ça représentait, j'arrivais pas à retrouver de l'émotion. Alors, l'existence des camps. Alors ensuite, le régime soviétique. Il est certain que j'avais pu discuter avec pas mal de Polonais, et que j'avais la certitude absolue de ce qu'était le goulag, et de ce qu'était pas mal de choses dans le régime soviétique, y compris de ce qu'il avait souffert, y compris des Einsatzgruppen, je sens bien. Mais le régime soviétique. Moi, le communisme, ça ne m'aurait pas choqué, je n'étais pas strictement communiste, mais ça ne me choquait pas. Mais le régime stalinien, non. Et quand je suis rentré, j'avais des amis, entre autres, mon ami Marcel Lozin, celui qui m'a montré la photo, qui était membre du comité central du Parti communiste, et qui était le patron de l'école des cadres du Parti communiste. Quand je dis non, je me rappelle, il m'a écrit une lettre où. Il l'a intitulé « Cher idéaliste ». Il pensait que j'étais un idéaliste. Il pensait dire que j'étais pas crédible dans ce moment-là. Et personne, effectivement, ne croyait qu'il pouvait exister un régime que je ne compare pas au régime stalinien. Je ne compare pas, il faut être possible. Mais malgré tout, qui était impressionné quand même. Alors, bon, voilà deux choses. Alors, il est certain que... Après avoir vécu ça, moi, je ne vais pas dire que mes sentiments étaient absents. J'ai toujours gardé comme par vous, une grande tendresse. Mais je n'étais plus capable de beaucoup l'exprimer. Et je rentrais dans cette dans l'écrit, je devais m'insérer. C'était quasiment impossible. J'ai passé, repassé mon bac, puisqu'il était à temps. Je suis rentré dans une école d'ingénieur. J'ai fait un an, tant bien que mal. Et puis, au bout de 10 ou 12 ans, j'ai fini. Je ne suis plus allé au courant. J'ai abandonné complètement tout ça. Oh bon, il est. Enfin, par la suite, je l'ai reprise. Mais je l'ai abandonné. Je l'ai reprise en 50, il y a 5 ans, pour moi, tu vois. Alors, bon, quand on a vécu des moments où l'existence me met en jeu, et qu'on a 19 ans, il y a des moments où on se dit qu'on n'a pas beaucoup profité de la vie. Hein. Il y a ça, quand je suis rentré, je trouvais que les filles étaient pas mal, ou je trouvais non plus d'être toujours ça. Mais, ben oui, bien sûr, c'est ça. Hein. C'est pas un dérivatif qui, dans certains cas, on abusait. Voilà, alors, donc, pendant un moment, j'avais une puissance physique considérable. Je suis capable de marcher, j'aurais pu marcher pendant des jours. J'ai fait la montagne quand même. J'ai fait oui, différentes choses à droite et à gauche. Mais pendant 3 ans, j'ai été complètement en dehors de la société. Et si l'occasion, si Spadjari m'avait proposé de créer un tunnel pour aller dévaliser une banque, hein, donc sans tuer personne, parce que j'étais pas sur place, j'étais quand même directeur avec mon lutin, ah, j'aurais appuyé demain. Alors je vais vous dire une chose, c'est que plus tard, longtemps après, eh bien, j'ai été amené à construire des chambres fortes de banque. Et ce qui est marrant, c'est que quand au moment de construire des chambres fortes, on m'a dit, voilà, il existe alors actuellement local, dans lequel existe ce qu'on appelle des armoires fortes, c'est-à-dire des armoires blindées. Et quand je suis allé dans ce local, je me suis dit quand même, moi qui rêvais d'évaliser une banque, alors que c'était si facile, hein, j'aurais pu rentrer par soupirail, avec un pied de biche, démolir ça, je serais parti riche. Bon, je l'ai pas fait. J'espère que vous me croyez. Alors, oui, la vie, une vie. Il est certain une vie marquée définitivement, c'est sûr. Moi, ne croyez pas que je me remue ça dans ma tête tout le temps. Non. C'est ancré, il est certain qu'il y a des réactions de ma part, des réactions de résistance à toute contrainte. Oui, c'est vrai. On ne peut pas me dire quelque chose, il ne faut surtout pas employer un ton trop affirmatif ou directif, c'est vrai. Ça a des avantages, des inconvénients. C'est vrai, ça a guidé ma vie. Ça m'a conduit vers une recherche permanente, c'est vrai. Ça a conduit une quête permanente, une inquiétude d'esprit. Oui, c'est un aspect extrêmement positif, des aspects négatifs sans doute, mais c'est un aspect extrêmement positif. J'ai été sans doute un autre homme que je n'avais pas connu cette période.
Quelle est la chose qui vous a poussé à rester en vie lorsque vous étiez dans les camps ?
À devenir clandestin. Une estime de moi. Hein. C'est. Mais là, je précise. Hein. Oui, je me disais, moi, j'étais à la crime. Je ne me bats pas, alors que mes camarades se battent. Et donc, je m'étais dit, je vais m'évader. Je ne peux pas m'évader. Il faut que je fasse quelque chose. C'est aussi bête que ça. Hein. Et bon, j'ai un direct en confusion, donc une fois, complètement stupide que je suis surpris, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il est certain que, par certains côtés, c'est un acte courageux, oui. Alors, courage de ce type-là, ben, je ne vous le conseille pas. Hein. C'est stupide, il faut se maîtriser. Et je suppose qu'il y a des gens qui se font tuer comme ça. Hein. Tout d'un coup, ils disent, oui, il faut que j'y aille. Ils y vont, ils sont tués. Ouais, je pense que ça m'est vrai. Ouais. but. Hein. Ne serait-ce que le cas de Véné, dont je vais parler tout à l'heure. Hein. Oui, oui, il a. C'est vrai qu'il remplissait bien son rôle. C'est vrai que les miliciens craignaient de passer devant lui. Mais non, tu es. Risquez pas votre vie. Hein. Moi, je. Si j'ai un message à vous transmettre, c'est celui-ci. Dans la vie, engagez-vous. Faites des choses. Hein. On se construit quand on fait des choses. Même quand elles sont petites. Hein. Engagez-vous. Mais ne risquez jamais votre vie. C'est tellement stupide, tellement précieux. Hein. Mais par contre, oui, engagez-vous. Dans le domaine que vous voudrez, dans le sport, dans la couture, dans les claquettes, la poésie, hein, c'est votre truc, mais engagez-vous. J'insiste beaucoup dessus. Si vous oubliez tout le reste, n'oubliez pas ça. Hein. Dans la vie, s'engager, faire des choses. Alors quand on se retourne, bon, on a plus ou moins de plaisir, mais au moins on constate qu'on a fait ça.
Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez ?
Que je regrette. Je regrette certaines conséquences et certains. Hein, j'ai interrompu mes études. Bon, j'ai refait une haute école d'ingénieur après. Mais la première était d'un plus haut niveau. Hein, j'aurais. Bon, est-ce que c'est un regret bon, oui, j'ai perdu 2 ou 3 ans de ma vie. Hein, c'est vrai. Oui, j'ai perdu 2 ou 3 ans de ma vie. Et 2 ou 3 ans importants. 3 ans. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas perdre ça. C'est vrai. Et ces 2 ou 3 ans, je vois pas beaucoup d'aspects positifs dans ces 3 ans. Non. Alors, est-ce que ça a été un ferment ? Je sais pas. C'est pas du très, très difficile. Mais dire que j'aurais. Oui, ce serait un. Comment. Je ne vais pas dire que je regrette d'être en résistance. Bon, ça, c'était. Bon. Je regrette. Oui, je dis que je regrette d'avoir été clandestin. Bon, oui, c'est une connerie, mais ça a pas de conséquences. Alors, ça ne vient pas. Je ne sais pas répondre aux questions, puis moi. Qui correspondait à des réseaux de résistance, mais on ne les connaissait pas parce qu'il ne fallait pas les connaître. Et on ne cherchait pas à les connaître. On savait que moins on en connaissait, moins on était susceptible d'en métier. Vous savez, moi, les interrogatoires que je subis ont été. J'en ai encore des parts. Aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec la torture. La torture, c'est ce qui est irréversible. C'est quand on commence à se casser les dents. Ça commence à être irréversible. Et tout reste. Alors, qui peut rester à la torture ? Jean Moulin, il a apparemment assisté. On a dit aussi qu'il avait été mal torturé sur le tir. Mais je me suis rendu compte avec un certain effort. Alors, je me rappelle avoir pensé à ça, il y a longtemps, je ne me rappelle plus. Que. Si la vie d'un de mes enfants, que je tiens à bien sûr, avait dépendu de quelqu'un j'ai sous la main. Je l'aurais fait dire n'importe quoi. C'est horrible ce que je dis là. Horrible. Moi, qui suis quand même quelqu'un de relativement pacifique, hein, en tout cas, du moins, je respecte la vie des gens. Eh bien, oui, j'aurais été capable, je crois, de faire tout. Alors, oui, bon, vous me direz évidemment, c'est beaucoup de la vie d'un enfant, c'est un enfant, hein, beaucoup. Je rappelle le lien filial, ça. Alors, oui, sans doute une bonne motivation, mais le fait que je, oui, je crois que je suis capable, ça veut dire que tout le monde en est capable. C'est-à-dire dans des conditions, et on est capable. Bon, Hitler a été suffisamment astucieux pour arriver à le démultiplier auprès d'un grand nombre, mais fondamentalement, voilà, je pense qu'il est important de travailler à un régime politique qui se méfie de ce genre de théorie. Et si je milite pour la démocratie, c'est pour ça. Hein. Les hommes, comme ça, seuls, sont capables de tout. Il faut qu'ils s'autocontrôlent, qu'ils se contrôlent les uns les autres. Oui, c'est important. On est capable de tout. On n'a pas confiance. Mais quand vous prenez quelque chose qui vous tient parfaitement à cœur, quand je dis faire avouer, ça veut dire lui faire avouer, y compris des choses qu'il n'a pas faites. Hein. Quand on fait avouer quelqu'un, il parle. Ce qui est arrivé à apprendre le droit de qui n'avait plus rien à dire, mais qu'on continue à torturer quand même. Oui, il faut bien distinguer les tortures. Il y a comme ça des choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer entre ce genre de mots, votre. Ça revient à l'infini. Hein. Le type d'interrogatoire, le type de camp, Darius, c'est l'infini. Hein. Bon, mis à part Auschwitz, le camp d'extermination, strictement, encore camp intérieur, il y a eu parfois une disparité. Les camps de concentration, avec des nuances aussi entre eux, et puis à l'intérieur, les camps de notre du type du nôtre, qui est un peu exceptionnel, hein, qui est un camp de représailles, mais où on a pas de brimade de SS. Bon, les autres camps, ensuite, qui étaient des camps de travail, c'est pas parce qu'il existe des camps comme Auschwitz qu'il faut penser que les autres sont à trois crans en dessous. C'est pas ça. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Faire attention à ce genre de gradation. Hein. C'est comme. Oui, c'est. Si notre témoignage a une certaine valeur par rapport à l'histoire, hein, c'est, si j'ose dire, tu diras, du fait de l'émotion qu'on apporte. Parce que nous, on dit peut-être mieux que 100 000 morts. Oh, c'est pas 100 000. Ça n'a pas de rapport avec un mort, s'il vous plaît. Hein? On ne peut pas dire que c'est équivalent, mais on ne peut pas dire que ça sera 1000 fois supérieur. Il y a. Oui, tout est dans l'émotion, n'importe. On peut pas. Moi, j'ai pas la prétention aujourd'hui de vous faire le tour. Moi-même, d'ailleurs, pendant que je parle ici, j'ai parlé avant-hier dans une classe, qui a sans doute. J'ai voulu dire la même chose, mais qui a sans doute reçu un message un peu différent. Nous, on est là pour vous dire en ressenti. Ce que je vous ai dit est exact, hein, je n'ai pas menti. Mais c'est mon ressenti. Le problème de, d'ailleurs, ça soulève le problème du témoignage. Les témoignages, on sait dans l'action de voiture que c'est sûr possible. Mais y compris le nôtre. Moi, j'ai pu constater, j'ai eu la chance d'avoir avec moi. D'avoir pu tenir un camp avec moi, Sauf que je n'ai pas tout noté, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas noté, qui tombent hein, de ce qui me détenait, hein, c'est pas tort. Mais j'ai pu noter des petites choses où j'ai pu constater une légère dérive. Je suis persuadé que c'est comme ça, mais vraiment, pas de ce type. C'est bon. Hein, nous, dans notre site internet, hein, on se trouve avec des témoignages différents sur un même événement. C'est comme les accidents. On a tendance à dire, bah oui, c'est plutôt lui parce qu'on le connaît, etc. Peut-être, hein, mais on ne peut pas se permettre non plus d'écarter le témoignage de l'autre. Bon, c'est des inconvénients. Histoire vérifie.
Si aujourd'hui vous aviez le choix entre une vie avec la résistance et une vie sans la résistance, vous choisiriez quoi?
Je ne sais pas. Non, moi. Je ne sais pas. Non. Moi, je vais. Cette résistance, j'entends résistance à la grandière, mais en général, elle m'habite. Je vous parle de la résistance, parce que, bon, parce qu'on est ancien, parce qu'on a vécu. Mais, encore une fois, je ne me vautre pas là-dedans. Hein, mais par contre, oui, il y a quelque chose qui s'est imprégné en moi. C'est cet esprit de ne pas accepter comme ça des choses comme affirmes. Aujourd'hui, j'invoque la vigilance, la lucidité en face de choses qui gravent. Dans les années 30, on ne pensait pas du tout qu'on aurait ces années 39-45. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est. À la fin, voilà, on n'existe juste pas, mais de conflits très qu'il est essentiel d'en avoir conscience maintenant pour en partie les combattre. Je m'explique un peu plus, bon, je ne veux pas entrer dans le domaine politique, mais cette fameuse question de la croissance, il nous faut une croissance de 3% ou 5%. Mais la croissance, 3%, etc. Hein, vous voyez où ça nous mène dans 50 ans. Hein. Il faut savoir ce que ça signifie. Des pensifs qui doivent être repensés. Hein. C'est étonnant d'ailleurs. Hein, je parle de démocratie tout à l'heure. Hein. Pour moi, s'il y a un débat qui doit être entretenu, c'est celui de la démocratie. C'est celui de savoir ce que veut et ce que peut être la démocratie. Un système qui nous permette de résister à nos propres pulsions, mais qui conserve bien sûr notre dignité, qui est essentielle. La dignité, bien sûr, c'est au centre de nos débats. Pardon. Que vous mangez le plus? J'allais dire le fusil. Mais. C'est pas complètement vrai. Mais si, en partie, quand on pouvait le penser. Non, ce qui manquait le plus, c'est la liberté. C'est. Au fond, à partir du moment où on a franchi. Ce cap de l'équilibre. Bon, au début, vous travaillez. Moi, je m'en rappelle, ma première nuit, c'était horrible. J'étais relativement costaud. Ma première nuit, c'était horrible. Je me suis dit, c'est pas possible, je tiendrai pas. Mais, heureusement, le lendemain, il y a eu une alerte aérienne. Je n'ai pas travaillé de nuit, puisque le coup a été coupé. Heureusement, je ne sais pas ce que je dis. Mais, bon, ce qu'on vous demande, étant donné qu'on ne nous demandait pas de nous épuiser, mais de travailler beaucoup, beaucoup, il y a un moment où on atteint un équilibre et où on arrive à recommencer à penser. Et bon, ben, moi, je pensais à une chose, c'est ma liberté. C'était m'évader. Je me dis, à l'estime de moi, oui, mais globalement, c'était. Tout le monde ne pense pas comme ça. Hein? Oui, parce que quand j'ai proposé à des camarades de s'évader, ils m'ont dit non. Ils s'étaient résignés, d'une façon, ils avaient raison. Hein. Il est certain qu'à partir du moment d'un certain point d'équilibre, hein, bon, on savait que l'Allemagne faiblissait, alors que forcément la fin de la guerre allait arriver, l'essentiel pour nous aurait été de dire, ben oui, je vais venir jusqu'au bout. Bon. Moi, ça ne me suffisait pas, enfin, je disais en quelles conditions. Mais sûr, oui, la liberté, bien sûr, la liberté.
Vous en avez tué pour la liberté?
Pardon?
Vous en avez tué pour la liberté?
Si, j'ai buté.
Tué.
Ah, j'ai tué. Ah, oh, j'aurais tué.
Non. Non, j'aurais tué quelqu'un qui me menace.
Ah, vous voulez dire tuer si j'avais eu un gardien? Hein?
Je sais pas. Je sais pas, c'est pour une de condition. Vous savez, où que ce soit dans la film, l'environnement joue un rôle considérable. Non, a priori, je vous dis non. Non. Ça dépend de qui. Même. Je me suis fait tabasser à coup de matraque par deux miliciens, dont un qui avait mordu moins sa gueule. C'est pas un milicien sa gueule, mais c'est comme ça. Et je me suis dit, après la guerre, celui-là, j'aimerais le retrouver. Ça veut dire quoi, hein, au fond, je ne savais pas trop ce que vous dites. Parce que, premièrement, ce type-là était peut-être un costaud, hein, et ensuite, en admettant même que je l'ai cogné dessus, que je l'ai mise par terre, qu'est-ce que je refais, je retraçais tout. Le combat entre hommes, ça ne peut pas beaucoup se théoriser comme ça, non. Bon, moi, en tout cas, je suis incapable de vous dire si j'aurais dû quelqu'un, parce que ça dépend complètement sur le sens. Je conçois que des gars qui s'évadent et puis qui sont sur le point d'être repris et qui ont la possibilité d'échapper en tuant les gars qui est vers eux, je conçois qu'ils le fassent. Je conçois, oui, ça dépend des conditions. Mais il y a toute une motivation, il n'y a pas. Simplement que le fait de s'évader, le fait que vous avez déjà fait quelque chose, que vous êtes engagé dans une action, et que cette action, elle passe par, éventuellement, la mort d'un homme. Il est certain que la mort d'un homme, ça, à ce moment-là, ça pesait moins lourd qu'aujourd'hui. Hein, dans un climat comme celui-ci, aujourd'hui, tuer un homme, c'est disons constable. Le rapport à la mort est. Et complexe.
Vous saviez où on vous emmenait quand on vous a arrêté et que vous étiez dans le train?
Ah, non. Après, quand vous en emmenez en Allemagne? Oh, non, on ne savait pas où on allait. Non, on ne savait pas. On a débarqué au train quand. Non, on ne savait pas du tout. Moi, en tout cas, je ne savais pas. On nous avait dit. On nous avait dit qu'on allait. Bon, je connais plus le terme. Bon, on savait qu'on allait en Allemagne pour travailler, pour être dans un camp. Mais non, c'était extrêmement flou. D'abord, à cette époque, on ne savait pas ce qu'était les camps de concentration. Et on est parti en sachant. pour nous emmener. Quand on était interné ici, j'ai donc été appelé à 3 reprises pour 3 interrogatoires différentes. Et puis, je me dis à quel point j'avais eu une angoisse, la crainte qu'on découvre cette notice. Et on m'a perdu une dernière fois. Et bon, et c'était mon père. Mon père, il a réussi à me trouver, je ne sais plus, j'avoue que je n'ai pas osé lui demander à parler. Bon, enfin bref. Donc, mon père était au courant de ce qu'on partait en Allemagne. Mais lui non plus, je ne savais pas ce qu'était que les différents camps. On partait en Allemagne, travailler bien sûr en Allemagne. Les Allemands, ils ne savaient que travailler, ils savaient travailler. Ils ont un souci, une notion de travail très forte. Il faut que je dise quelque chose. Pardon, je suis content de perdre le fil. Donc on ne savait pas, mes parents. On a appris que plus tard, on pouvait leur écrire. Effectivement, dans les différents camps, on avait la possibilité d'écrire, mais c'était. On ne savait pas à quel point c'était. Moi, j'ai pu envoyer. Je m'en vais plus aux toilettes, j'en ai reçu une. J'en ai reçu une, non, Alisa, c'est pas une lettre. C'est un colis dans lequel il y avait des noix. Dans une noix, ma sœur avait ouvert une noix, il y avait glissé un petit mot, alors que, bon, tout le monde avait très bien contact. Alors, mes parents, on leur a dit à un moment donné que j'étais mort. Je ne sais plus à quel moment. Non, je n'ai pas aussi leur parler. Et puis après, on leur a dit que... Ça, c'est... quand on leur a dit ça, ça doit être... Depuis 45, je pense. Je sais pas. Et puis ensuite, on leur a dit que non, que j'avais été répertorié dans un camp en URSS. Si bien que, je pense, après, 1 ou 2 mois avant, ils ont su que j'ai dit.
Sur la notion de travail. La notion de travail chez les Allemands. Du travail, oui.
Oui, les Allemands, oui. Je vais parler de l'Allemagne. Je voudrais insister sur le fait que l'Allemagne était, j'allais dire, le pays le plus développé, si j'ose employer cette expression, du monde. C'est le pays où il y a le plus de penseurs. Hein, vous ne pouvez pas oublier les grands penseurs allemands. On retrouve ça, bien sûr. Il y avait des poètes, mettons en français aussi, mais il y avait de très grands philosophes, tout aligné, des Kant, Hegel, Marx, etc. Des grands savants, bien sûr, de ce que Einstein ou von Braun. C'est un pays qui avait une production intellectuelle considérable. Et c'est le pays qui a développé cette maladie du nazisme. Donc, ça n'est pas ce qu'on appelle la culture qui préserve des excès. C'est ça qui est dangereux. On a plus ou moins intuitivement cette impression qu'il suffit de savoir beaucoup de choses. Non, non, non. Les Allemands, en ce moment, ils étaient des maîtres. Je tiens à vous dire ça. Alors le travail, oui, bon, il y a... Bon, c'est certain que si... quand ils récupéraient dans les pays occupés, c'était pour obtenir du travail. Et bon, ils les attiraient à des tâches qui étaient à la limite de force, mais c'était un bon système. Le rendement nourriture-travail était certainement optimal. Mais c'est sûr que tout manquement au travail était pour eux un cric. Alors, je ne peux pas dire développer la notion de travail, mais ça c'est une notion qui me perturbe. Je vois pas le temps. Je pense important au travail surtout.
Ah oui, ça aussi c'est vrai, c'est important.
Il y avait tant d'histoires de collaboration. On avait ici un prof de français qui était un partisan ardent du maréchal Pétain, mais qui n'était pas capable de dénoncer. Il était capable de dire, de parler, mais incapable de dénoncer. Et on s'affiait d'une grande résistante. Alors, les collaborateurs, il est certain qu'il y avait des degrés de danger. Rappelez-vous aussi qu'il y a eu 3 millions de dénonciations auprès des Allemands. 3 millions. Hein, vous voyez, ça représente. Ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui ont dénoncé le voisin, hein, qui était résident ou qui ne l'était pas, mais pas seulement. Parce que, pour une des raisons de jalousie ou de je ne sais quoi. Hein. Bon, même parfois parce qu'il y a des résistants aussi. Alors, donc, autrement dit, des collaborateurs, il y a une sorte. Ceux qui collaboraient effectivement avec le régime. Mais il y avait ceux qui collaboraient avec le régime 1, français avec Vichy, ceux qui collaboraient avec le régime allemand. C'est quand même des choses très différentes. Il y en avait. Bon, ils ont accueilli des vitrines qu'on a. Bon, on a parfois fait exposer des vitrines de collaborateurs notoires. Et puis, il faut dire qu'on a même, à la Libération, exécuté un certain nombre de collaborateurs ou de soi-disant collaborateurs. Il y a une épuration qui a été aussi sanglante, on a voulu le dire, mais qui a quand même été méchante. Alors, bon, c'est sûr que dans un village, comme chez moi, un petit village à Rome, ceux qui collaboraient, on leur en voulait un petit peu, mais bon, tant qu'ils dénonçaient pas, c'est supportable. Alors, ce qu'il faut dire en même temps, parallèlement, c'est les résistants. J'ai dit au départ qu'on était extrêmement peu nombreux. Bon, le nombre a augmenté doucement, il n'a jamais été très considérable. Et puis, il y a eu ceux qu'on a appelés les résistants derniers. Alors, moi, je suis parti le 5 juin 1944. Je connaissais bien sûr tous les résistants de mon village. Quand je suis rentré, il n'y en avait beaucoup plus. Bon, alors est-ce que ceci, je peux l'en vouloir? Ben non. Ils ont accepté de prendre des armes, d'aller au maquis. Bon, il est certain que je n'ai pas pour la même considération ceux qui étaient résistants depuis longtemps. On a eu tendance, nous, résistants, à l'en vouloir un petit peu. Bon, ça fait partie des choses, il faut se pardonner. Alors, donc, vous voyez, les résistants, plusieurs sortes quand même, puis les collaborateurs, bien sûr, plusieurs sortes. Puis alors, quand même, un assez grand nombre de gens qui se prononcent pas, qui ont peur. C'est un peu triste, mais ça, c'est le fait des pays civilisés. Hein, Les Romains, ils faisaient appel aux couloirs, même à des tribus germaniques, pour se battre à leur place, y compris de leurs généraux. Alors, mais bon, ils ont fini par succomber quand même. Enfin, ça a duré 1000 ans. Ils ont joué un rôle assez important. C'est quand même grâce à eux que la résistance s'était étendue. Ils avaient ces deux journaux qui étaient relativement construits à la fin, et oui, qui apportaient des arguments, et puis qui rendaient l'espérance. L'espérance, c'était. J'ai cru comprendre que c'était la fin. Merci de me rassurer.